Vous l'aviez entendu tout à l'heure, nous avions les élèves de l'école Jules Ferry de Séry-Fontaine à nos micros. Eh bien, nous avons la classe maintenant de Monsieur Pinel de cette école. Je crois qu'ils vont nous parler droit et droit des enfants en particulier. Eh bien, écoutez, mesdemoiselles, je crois que vous êtes prêtes. Eh bien, nous vous écoutons.
Bonjour, nous sommes le groupe 1 de Enzo, Clémentine, Eva et Zoé. Nous allons vous présenter c'est quoi les droits, faut-il d'autres droits, un micro-trottoir.
JC lance le micro-trottoir.
Que savez-vous sur les droits de l'enfant?
Alors les droits de l'enfant, c'est ce que les enfants ont le droit de faire en fait.
Le droit des enfants?
Alors sur les droits des enfants, ben, je sais qu'ils en ont déjà, c'est déjà très important. Ensuite, ben, y a des droits différents, comme les droits à l'éducation, les droits à la santé, les droits à la culture aussi. Il y en a plein. Je ne vais pas tous les citer. Je vais citer les principaux. Est-ce que tu as d'autres questions?
Bah, c'est des règles. Les enfants doivent les respecter. Que c'est des règles qu'on a appliquées pour que les enfants... que les enfants
vivent mieux.
Que c'est quelque chose pour limiter les enfants de faire des bêtises et que ça nous sert dans la vie.
Sur le droit des enfants. Très bonne question. Pas grand chose. Pas grand chose sur les droits des enfants. Je sais qu'ils ont droit l'accès à l'éducation, exactement. L'éducation nationale, d'accord. Donc un enseignement. Que vous dire de plus? Ce serait le seul droit que je pourrais vous dire qui est porté à ma connaissance. Faut-il d'autres droits? Je ne pense pas. Je pense que les droits de l'enfant au jour d'aujourd'hui sont assez larges et les droits sont aussi complétés par l'éducation des parents. Je pense que pour moi, la boucle est bouclée dans ce sens-là.
Quel est votre avis sur les droits de l'enfant?
On a le droit d'y réfléchir aux questions avant de...
Ah, heureusement que les enfants déjà ont des droits. Parce que même si c'est des enfants, que vous êtes jeunes, vous avez quand même des droits, des devoirs aussi. Mais donc le droit, c'est d'être respecté comme des personnes, comme des adultes. Mais du coup, en échange, vous devez aussi respecter les adultes et les autres enfants.
Bien, les droits des enfants, ils ne sont pas tous les mêmes selon les pays. Donc ça veut dire qu'en France, vous en avez, mais il y en a dans certains pays, il n'y en a pas du tout. Hein. Donc on ne considère pas un enfant avec des droits comme une personne.
Bah c'est bien, c'est pour faire respecter un peu les enfants des droits. Comme ça les enfants se comportent un peu mieux.
Quel est votre avis sur les droits de l'enfant?
Ça sert à tout le monde et sur tous les enfants, peut-être que aussi pour les adultes et je trouve ça bien.
Quel est votre avis sur les droits de l'enfant?
Mon avis, concernant l'éducation, c'est une très très bonne chose. Ça permet à nos enfants de grandir, de s'accomplir et d'être de futurs citoyens dans le pays dans lequel ils vivent. Et je pense que c'est une très très bonne chose.
Faut-il d'autres droits?
Sûrement, oui. C'est pas... Mais là comme ça, je sais pas, là comme ça...
Alors, il faut certainement d'autres droits. Alors après, tu vas me poser la question, lesquels? Alors, à l'intégrité de la personne, moi, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de, peut-être, d'articles que l'on pourrait rajouter concernant un enfant et avoir cet enfant, il devrait avoir des fois plus la parole, qu'on l'écoute plus sur certains sujets. Comme son alimentation, par exemple, s'il est nourri convenablement, sur sa santé, avoir un peu plus d'avis concernant les enfants.
Faut-il d'autres droits ?
Bah, je pense qu'il y en a assez.
Je pense que oui, mais je ne sais pas lesquels.
Voilà. Et vous me dites quoi alors ? Dites-moi tout, parce qu'on est revenu à l'antenne, vous avez fait un geste, mais comme vous discutiez. Alors ça, vous avez tourné ça où ?
On a tourné à l'école.
À l'école, et vous avez interrogé des élèves, des parents. C'était ça l'idée. Et c'était le fruit de votre travail. Alors, qu'est-ce qui va se passer après ce morceau dans l'émission ? On va retrouver quoi ?
On va retrouver le groupe 2.
Eh bien écoutez, je vous propose qu'on le retrouve dans un petit instant, alors ce fameux groupe 2.
Bonjour Antonio.
Bonjour jeune homme.
Directeur du CLAPS de Sérifontaine.
Tout à fait, oui, je suis le directeur du centre de loisirs et d'accueil périscolaire de Sérifontaine.
C'est quoi votre métier ?
Mon métier, c'est justement d'être directeur d'un accueil de loisirs extrascolaire et périscolaire, c'est-à-dire avant l'école, après l'école et pendant les temps de mercredi et ainsi que sur les vacances. Et l'idée, c'est de recevoir des enfants, de les encadrer et de proposer des animations en tout genre pour que tout le monde puisse se divertir.
Est-ce que dans d'autres pays, il y a aussi des CLAPS ?
Est-ce que dans d'autres pays, il y en a ? Certainement. Certainement, pas sous la même appellation, mais certainement ça doit exister puisque le droit au loisir, l'accès au loisir devrait être un droit pour tous les enfants. Et j'imagine qu'au moins dans les pays dits avancés, il y a des centres de loisirs, des colonies, des choses comme ça. Je sais qu'aux États-Unis ça existe, au Canada ça existe, en Italie, au Portugal. Je crois que dans beaucoup de pays ça existe. Après, sur certains pays comme la Chine, la Corée, je suis pas sûr que ça soit aussi développé.
Est-ce que pour ce métier il faut aimer les enfants ?
Est-ce qu'il faut aimer les enfants ? C'est une question que l'on me pose souvent. Ouais. Il faut avoir le goût des enfants. Faut savoir les écouter, faut savoir se mettre à leur hauteur, faut savoir aussi être patient, faut pouvoir créer de la confiance, faut pouvoir créer du dialogue, et puis essayer d'être au plus près de ce qu'ils veulent faire en termes d'activité, en termes de jeu, en termes de distraction. Et faut aimer les enfants, c'est la première qualité.
Est-ce que les sorties coûtent cher ?
Alors, les sorties, oui, les sorties sont un élément de la programmation. Et alors oui, il y a certaines sorties qui coûtent plus cher que d'autres, hein, notamment tout ce qui est les gros parcs d'attractions. C'est là aussi où les enfants sont les plus nombreux à s'inscrire. Donc ouais, ça coûte un petit peu cher parfois. Après, il y a des sorties oui, beaucoup plus gratuites et tout aussi éducatives. Je pense à des musées, je pense à des fermes pédagogiques, à des choses comme ça, qui ne coûtent pas spécialement cher et qui sont tout aussi divertissantes et qui permettent la découverte et l'enrichissement des uns et des autres.
Est-ce qu'il y a du transport pour les sorties ?
La plupart du temps, oui, il y a du transport. Alors, des fois, c'est nos petites jambes qui nous transportent hein, quand on va à côté. Sinon, quand il faut aller un peu plus loin, ben, effectivement, on utilise le car communal hein, que la municipalité met gracieusement à disposition. Donc oui, on utilise le car communal pour les sorties.
Est-ce qu'il y a beaucoup de sorties ?
Alors, beaucoup de sorties. Alors, sur le temps, quand il y a école, les mercredis, il y en a 2-3 dans l'année. Sur le temps des vacances, des petites vacances scolaires, il y en a une par semaine, à chaque fois, où il y a les maternelles et les primaires. Et l'été, en fait, il y a chaque semaine une sortie pour les maternelles, une sortie pour les primaires et des sorties pour les ados. Donc, par exemple, à titre d'exemple, cet été-là, il y a tout cumulé, il y a une quinzaine de sorties qui vont se dérouler. Et je vous invite tous d'ailleurs à venir vous inscrire au centre de loisirs, où la joie et la bonne humeur règnent en maître.
Merci Antonio.
De rien les jeunes, ça m'a fait plaisir de répondre à vos questions et n'hésitez pas à venir vous inscrire. Joie et bonne humeur, plaisir partagé et n'oubliez pas, l'enfant est un être total, global et qui est un futur citoyen en puissance et dans les centres de loisirs, c'est là aussi où on apprend à grandir. Voilà. Merci.
Je crois que derrière, vous aviez une deuxième invitée, non ? Comment ça se passe ? Dites-moi un petit peu, les jeunes. Qu'est-ce qui était au programme ? Vous ne savez plus ce qui est au programme, c'est ça l'idée ? Est-ce que vous voulez... Attends, alors, sinon, ce que je peux vous proposer, c'est un petit fond musical, histoire que nous reprenions nos esprits avant de savoir précisément ce que nous allons faire. Ça vous va ? Voilà, hey, on prend le temps, hein ? Manquerait plus que ça qu'on soit obligé de se dépêcher. Non, mais oh, voilà. Un peu de musique et puis je reviens tout de suite. Et voilà, ça y est, nous nous sommes mis au point. Nous n'avons plus qu'à faire. Ah non, il faut qu'on remette le casque. C'est à vous, les jeunes.
Bonjour, Madame Collet. Vous êtes deuxième adjointe du maire de Cerfontaine ?
Oui, tout à fait. Bonjour.
Est-ce qu'il y a des transports scolaires ?
Oui, à Cerfontaine, on a le transport communal. Alors bon, dans la plupart des communes rurales, c'est le département ou la région qui s'occupe de ça maintenant. Mais à Cerfontaine, il y a le car de la commune, effectivement, qui vous emmène le matin à l'école, qui vous ramène le soir.
Est-ce que comme ça dans les autres pays ?
Alors non, bien sûr, pas partout. Bon, dans la plupart des pays développés comme le nôtre, enfin dit développé, c'est l'appellation, oui, c'est le cas, hein, y a du transport. Bon, dans les grandes villes, ça organise un peu différemment, parce que des fois, vous avez des tramways, des trains, etc., des bus de ville. Après, dans d'autres pays, non, hein, y a des enfants dans certains pays qui mettent des heures le matin pour se rendre à l'école à pied.
Pensez-vous que tous les enfants du monde ont les mêmes écoles ?
Ah non, pas du tout. Les écoles, c'est très variable. Alors, pareil, hein, dans les pays européens, développés, les États-Unis, etc., Oui, l'école, c'est devenu une institution. Tous les enfants vont à l'école. Il y a même des études supérieures. Après, il y a encore beaucoup de pays du monde où c'est compliqué. Il n'y a pas de structure. Il y a pas beaucoup de professeurs et puis il y a surtout pas de matériel où c'est pas encore complètement ancré dans les habitudes d'inscrire les enfants à l'école jusqu'à un certain âge. D'accord. Là, vous avez un exemple tout à fait près de chez vous, si vous vous rappelez d'Yves Cuny, c'était une ATSEM que vous avez certainement eue. Elle a, sa fille en fait est à la tête d'une association justement à vocation d'ouvrir des écoles en Haïti et surtout de les équiper en termes d'outils pédagogiques. Donc vous voyez que c'est pas encore fini. Hein. Avant que tout le monde ait une école, il y a encore beaucoup de travail.
Pensez-vous que c'est mieux dans les autres pays ?
On regarde toujours l'herbe à côté, voir si elle est plus verte. Moi, je pense qu'en France, on est quand même assez bien lotis. Il y a l'école qui est obligatoire jusqu'à un âge relativement avancé, ce qui permet un minimum d'instruction et puis de formation. Après, on peut toujours discuter l'évolution des programmes. Enfin bon, non, on est quand même assez bien. On a du matériel, on a des grosses structures, on a des enseignants qui sont très bien formés, qui sont souvent très impliqués. La preuve aujourd'hui, c'est que vous faites quelque chose d'extraordinaire. Donc non, moi, je trouve qu'on est très très bien.
Est-ce que ils sont riches ou pauvres ?
Qui ça ? Les pays ?
Les autres pays.
Alors, il y a tout. Il y a des pays très riches, il y a des pays très pauvres. Après, au sein des pays riches, on trouve quand même des gens très pauvres. Il y a encore de tout sur la planète. Hein. Toutes les nations ne sont pas avancées au même niveau économique.
Pourquoi dans les autres pays, ils travaillent à 6 ans ?
Alors, le travail des jeunes enfants, c'est souvent lié justement à ta question précédente. Ça dépend un petit peu de l'avancée économique du pays. Très souvent, c'est ça. C'est-à-dire que le travail des enfants, c'est en réponse bien souvent à une situation économique de la famille où l'argent manque tout simplement pour les besoins vitaux. C'est-à-dire qu'il y a des familles dans le monde, quand vous avez le choix d'envoyer votre enfant toute la journée mais qu'il n'y a rien à manger pour personne le soir, ou d'avoir suffisamment pour nourrir vos X enfants en envoyant tout le monde aider un petit coup de main, et ben vous choisissez la deuxième option parce que vous répondez d'abord à un besoin vital.
Est-ce que dans les autres pays, ils ont des maisons ?
Alors, des maisons, il y en a partout. Après, c'est la nature de l'homme hein, de se faire un abri. Donc après, il y a maison et maison. Nous, évidemment, en France... on a l'habitude d'un appartement bien loti avec l'eau chaude qui coule toute seule et le chauffage. Maintenant, c'est pas forcément le modèle partout. Dans les pays pauvres, c'est différent. Même pour les gens les plus riches, d'ailleurs, ils ont un confort qui leur est propre, qui peut être propre à leur coutume et puis qui peut être propre aussi à la situation générale du pays.
Merci, Madame Coulet.
Mais je t'en prie, c'était un grand plaisir.
Merci Timéo, Lucas, Léna et Mélina. Bonjour tout le monde. Nous sommes Tristan, Bastien, Mathis et Pascal. Nous avons préparé un micro-trottoir sur comment trouvez-vous les droits de l'enfant. JC, tu nous lances le micro-trottoir de l'AVS de Dana ?
Que pensez-vous des droits de l'enfant ?
Je pense qu'ils sont importants, primordiaux, car ils visent à la sécurité et à la protection de l'enfant.
Quels droits faudrait-il ajouter aux enfants ?
Comme ça, je ne vois pas quels droits supplémentaires on pourrait ajouter, mais déjà veiller à ce que chaque enfant, à ce que chaque droit de l'enfant soit bien respecté, surtout dans les pays en guerre où beaucoup d'enfants restent encore des victimes.
À quoi servent les droits de l'enfant pour vous ?
Ces droits ouvrent à l'enfant de meilleures conditions de vie au sein de la société, surtout dans les pays défavorisés. Il y a moins de mortalité grâce aux soins médicaux, la scolarité qui est ouverte à davantage d'enfants et moins d'enfants mineurs qui travaillent, etc. Je vais où
tu veux. Merci, au revoir. Et nous passons la parole au groupe d'Élise, Noah, Dana et Mathieu.
Bonjour, nous sommes le groupe de Noah, Mathieu, Élise et Dana. Merci au groupe de Mathis, Bastien, Pascal et Tristan de nous avoir présenté ce micro-trottoir. Nous allons vous présenter une fiction sur les droits de l'enfant.
Maxime et les droits de l'enfant. Il était une fois, en 2019, un enfant appelé Maxime. Un jour, il était à l'école, impatient de suivre son premier cours d'histoire, mais il s'est posé une question. Les enfants avaient-ils des droits avant ? Il a mené son enquête, il s'est infiltré dans le labo de son père, qui est scientifique, et avait terminé le prototype de machine à remonter le temps. Il était fier de son papa, mais devait emprunter sa machine afin de poursuivre son enquête. Maxime est entré dans la machine et est sorti par l'issue la plus proche. Il était dans une grotte avec une famille dedans. Maxime s'est approché d'eux pour leur parler, mais il n'était pas très rassuré. Ces gens n'avaient pas de superbes vêtements futuristes de son époque. Ils ne se tenaient pas très droits et étaient autour d'un feu de camp. Maxime croyait que c'était des aliens d'une planète inconnue qui habitait sur Terre avant les humains. Il la regardait dehors pour voir s'il y avait un vaisseau spatial, mais il n'y en avait pas.
Maxime leur a donc dit « Bonjour, je m'appelle Maxime et vous, vous êtes ?» Puis Maxime leur a tendu la main, mais tous les gens qui se tenaient devant lui se sont retournés armés de torches et de lances. Maxime avait très peur, pourtant c'était une famille d'hommes préhistoriques. Il continua de leur parler, cette fois tout le monde communiquait avec des grognements étranges. Maxime, perdu, retourna dans l'engin futuriste de son père. Il savait qu'il ne trouverait sûrement pas la réponse à sa question ici. Maxime a décidé de changer d'époque, mais il avait prévu sa mission à l'avance. Son meilleur ami Maxence a une grande sœur qui est à la fac. Elle a donc appris plein de choses à son petit frère qui a lui-même transmis ses infos à Maxime. Mais Maxence ne se souvenait que d'une chose, que ça vous pouvait parfois être dangereux d'aller au temps des Romains. Maxime n'a donc pas voulu prendre de risques. Il est sorti par une porte où il y était écrit « Moyen-Âge ». Il n'a pas cherché à comprendre ce que cela voulait dire. Il a fait quelques pas et d'un coup, changement de décor. Il était devant un château où il y avait plein de villageois et d'après ce qu'il a compris, il était à Gisors.
Exactement là où Maxime habitait. Il a fait une drôle de tête quand il a vu le château, parce qu'à son époque, il est complètement en ruine à cause de la Troisième Guerre mondiale. Il a donc été assez content. Il a dit avec fierté « Raison de plus pour continuer mon voyage ». Il s'est donc infiltré en mission secrète dans le château de Gisors, où il était assez perdu vu que sa visite scolaire n'avait lieu qu'à la fin de l'année. À cette sortie, il verra plusieurs châteaux. Il s'est dit qu'au moins il pourra expliquer à tous ses copains et à sa maîtresse où était chaque zone du château de Gisors. Pendant sa mission, il a remarqué le roi Richard Cœur de Lion. Pendant la Troisième Guerre mondiale, tous les musées de France ont été détruits. Il est donc très rare de voir de célèbres peintures et portraits. Il était tellement heureux qu'il avait les larmes aux yeux. Sur son long voyage au cœur du Moyen-Âge, il a remarqué qu'avant, les enfants des familles pauvres ne pouvaient pas aller à l'école. Et pire encore, aucune fille n'avait le droit d'apprendre quelque chose. Une partie de sa mission était accomplie. Il retourna dans la machine futuriste de son père. Et avança. « Mince ! » s'écria-t-il. « Je me suis trompé d'époque. »
Puis il se téléporta au temps des Romains. L'Antiquité, c'est exactement là où son ami Maxence lui avait recommandé de ne pas aller. Il était dans un endroit que tout le monde appelait Colisée. Quand il a vu les habits des gens, il a bien vu la différence entre la préhistoire, le Moyen-Âge et l'Antiquité. Bref, les gens parlaient une langue étrange, gère. Le seul mot que Maxime avait compris, c'était Rome. Il savait très bien que Rome était la capitale de l'Italie. Maxime n'a peut-être eu aucun cours d'histoire pour l'instant, mais il connaissait la géographie heureusement pour lui d'ailleurs, car il n'aurait probablement pas su qu'il se trouvait en Italie. Sinon, depuis les gradins, il a vu au milieu du Colisée une arène où certains gladiateurs s'affrontaient tout en haut. Il a vu Jules César qui mettait son pouce vers le bas. Ensuite, une bande de lions et de tigres sont sortis de nulle part et ont dévoré les gladiateurs.
Maxime était vraiment traumatisé et retourna dans la machine à remonter le temps. Cette fois, sans se tromper, Maxime emprunte la porte Renaissance. Juste avant, il a pris un carnet et noté ce qu'il avait entendu. En fait, des espions déguisés en romains discutaient des lois romaines. Maxime a dû attendre 20 bonnes minutes avant qu'il parle des droits de l'enfant. À ce qu'il paraît, à la naissance d'un bébé, le père pouvait tuer son enfant s'il ne lui convenait pas, c'est-à-dire s'il était handicapé ou ce genre de choses. De plus, les enfants avaient une éducation très sévère et avaient souvent des coups de claquette. Après avoir eu de nouvelles informations, il s'était dirigé vers la Renaissance. Là, il est apparu dans une pièce remplie de portraits. Maxime a pris ses lunettes, a sorti un mouchoir de sa poche et les a nettoyées, mais il n'avait pas rêvé. Léonard de Vinci, en train de peindre Mona Lisa, se tenait devant lui. C'était la première fois que Maxime voyait un portrait et encore mieux un peintre. Mais Maxime se dit qu'il n'était pas là pour cela, il s'en alla pour poursuivre son enquête. quand il eut quelques infos importantes, il retourna dans la machine à remonter le temps et reprit son carnet. Les enfants devenaient adultes à 14 ans pour les garçons et 12 ans pour les filles.
Au cours de son voyage, Maxime avait trouvé un livre. Comme la Renaissance est l'époque de l'invention de l'imprimerie, il a pu se le procurer facilement et a trouvé des informations. Maxime ne savait plus où aller. Il est entré dans un endroit au hasard où il s'est rendu en 1881-1882, quand Jules Ferry a rendu l'école obligatoire pour tous et aussi gratuite. Maxime voulait rentrer chez lui car il pensait avoir toutes les informations nécessaires. « Allez, rentrons à la maison » cria-t-il. « Oh non, je me suis encore trompé !» Maxime apparaît en 1959 à la Déclaration des droits de l'enfant. Il a eu besoin de deux carnets pour ranger toutes les informations. Quand il rentra chez lui, il compara les droits du passé à ceux de son époque.
Il remarqua qu'il avait plus de privilèges qu'il ne le pensait. Maxime rend la machine à son père et maintenant est le premier de la classe en histoire. Dans son troisième et dernier carnet, Maxime a décidé d'écrire les droits de l'enfant de son époque. L'enfant a le droit d'avoir le permis à 10 ans, un enfant de 3 ans a le droit d'aller à l'école au CP, l'enfant a le droit de vote et de débattre, l'enfant a le droit de gagner de l'argent en travaillant. Bref, Maxime qui a 10 ans a vécu une aventure extraordinaire. Alors, penses-tu qu'en 2019, cela sera comme ça ?
Merci d'avoir écouté notre histoire. Maintenant, nos camarades vont vous présenter une interview « Comment faire vivre les droits de l'enfant ?»
Bonjour à toutes et à tous et merci à Dana, Élise, Mathieu pour leur histoire. Nous sommes avec Madame Collet qui est deuxième adjointe au maire de la ville de Cérifontaine. Pouvez-vous nous expliquer votre métier ?
Bonjour, alors c'est pas vraiment un métier être adjointe, hein. C'est plus une vocation on va dire. Hein. Donc on est élu par les électeurs de la ville qu'on représente. Et après, nos missions vont dépendre aussi des délégations que le maire veut bien nous accorder, en fonction de nos compétences personnelles, par exemple, ou en fonction des missions qui nous tiennent le plus à cœur. Donc moi, en ce qui me concerne, parmi mes délégations, il y a les affaires scolaires, par exemple. Donc c'est pour ça, j'imagine, que vous m'avez invité aujourd'hui, parce que je suis en lien avec donc tous les services qui s'occupent des enfants de la commune. Donc ça consiste en plein de choses. Alors après, on a nos délégations, on a nos missions propres, et puis après, on s'occupe de l'état civil, évidemment, des mariages, des baptêmes civils, etc.
Qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette évocation ?
Alors, ce qui m'a poussé à faire cette vocation, j'ai été invitée plutôt à faire cette vocation, on va dire, par Patrick Thibault, donc le maire actuel. Donc on se connaissait, il est venu me trouver un jour en me demandant si j'étais d'accord pour faire partie de l'aventure avec lui, pour essayer d'apporter un maximum de choses à la ville. Et ça m'a plutôt plu de m'intéresser un petit peu au devenir et aux désirs et aux souhaits et aux besoins des gens qui nous concernent directement, qui habitent à côté de chez nous, parce qu'on est une petite ville à Cérifontaine. Hein. Donc voilà, ça m'a donné le goût de m'impliquer. Ça fait maintenant 5 ans qu'on est sur le terrain et j'ai pas de regrets, je dirais.
Quel service de la mairie s'occupe des droits de l'enfant à Cérifontaine ?
Alors, il n'y a pas de service qui est spécialement voué à ça. Après, je dirais que les droits de l'enfant, c'est un peu une affaire de tous. C'est une affaire de vous-même, déjà, entre vous. Et puis après, c'est une affaire de tous les adultes qui, à un moment ou à un autre, sont responsables du devenir d'un enfant. Donc, chez nous, on a des services scolaires. Sur les écoles, ça va être forcément vos enseignants, hein. éventuellement l'infirmière scolaire quand elle passe, la psychologue scolaire, les AVS, les ATSEM. Après, sur les services communaux, quand vous êtes dans le car, bah, ça va être le chauffeur et puis l'accompagnatrice. Et puis après, on a le CLAPS, hein, donc le centre de loisirs et d'accueil périscolaire, où là, vous avez l'ensemble des animateurs qui sont à votre service pour vous aider à vous épanouir et puis vous protéger.
De quoi s'occupe-t-il ?
Tu veux dire l'ensemble des acteurs, quoi, des adultes qui s'occupent de vous. Alors, la mission des enseignants, ça va être surtout de vous apporter un maximum de savoir, d'accord ? Là, on est plutôt sur une éducation, donc c'est l'éducation nationale, mais on est plutôt sur une éducation en termes d'apprentissage. Et sur une éducation intellectuelle. Après, il y a des valeurs, bien sûr, aussi, quand même, qui sont transmises dans votre vie tous les jours à l'école. Après, pour ce qui concerne les services périscolaires, eux, ils ont plus ce qu'on appelle une vocation d'éducation populaire, c'est-à-dire de la découverte aussi, hein, une transmission de savoir, de valeurs, mais de façon plus ludique.
Comment la mairie intervient-elle dans la vie des écoliers ?
Alors, dans la vie des écoliers, nous, on intervient plutôt en apportant notre soutien, surtout matériel, parce que finalement, ce qui fait la vie de l'école, les adultes, les principaux acteurs, ça reste vos enseignants, bien sûr, hein. Donc, nous, on va intervenir financièrement, on va soutenir des projets d'école, par exemple. On va vous prêter le car communal pour pouvoir faire des sorties ou vous rendre ici, comme aujourd'hui, au collège pour cette émission de radio. On va être là aussi pour tout ce qui est matériel pédagogique, pour essayer de moderniser tout ça progressivement. Voilà, notre rôle essentiel, il est là. Il est plus, on va dire, en termes matériel et logistique sur l'école à proprement parler.
Quelles sont les associations spécialisées des droits de l'enfant ?
Alors, la plus grosse association, enfin, c'est même une grande institution, on va dire, c'est l'UNICEF. Ça, c'est une organisation internationale, donc c'est vraiment elle qui a mené le combat depuis le départ et puis qui continue maintenant. Après, en France, il y a des dispositifs aussi de l'État. C'est-à-dire que là, c'est pas. Il y a des associations, bien sûr, mais il y a aussi l'État qui se mêle des droits de l'enfant, qui assure qu'ils soient respectés, ou du moins qui peut intervenir quand c'est pas le cas.
Comment intervient ces associations à Serrefontaine ?
Alors, à Serrefontaine, on n'a pas d'association spécialisée dans les droits de l'enfant. Maintenant, les droits de l'enfant, c'est aussi, comme on a dit tout à l'heure, un droit à l'éducation, au respect, et puis à la découverte de plein de choses. Donc, je dirais que chaque association qui accueille des enfants dans ses locaux, quelle que soit la transmission, que ce soit du sport, de l'art ou autre chose, est dans cette mission, d'une certaine manière, parce qu'ils vont vous apporter des éléments pour bien grandir, pour devenir un citoyen respectueux, etc. Après, au niveau du département, il y a des dispositifs pour protéger les droits de l'enfant. Donc, il y a deux choses. Il y a le CRIP. Donc, le CRIP, lui, il recense un petit peu tous les éléments qu'on lui envoie quand on dénonce des faits qui nous paraissent importants à aller vérifier. Et puis, il y a un autre organe qui, lui, discute de tout ça. C'est-à-dire qu'il étudie un petit peu toutes les remontées qu'il y a tous les ans. Et puis, on essaye de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier, mais en amont, plutôt prévenir que guérir. Voilà.
Que pensez-vous des droits de l'enfant en France ?
Alors, les droits de l'enfant en France, ben, comme c'est dit dans vos micro-trottoirs, hein, je crois qu'ils sont quand même assez bien vus et appliqués. On est allé assez loin, je veux dire, maintenant, aujourd'hui, quand même, la pédagogie, la psychologie, tout ça, c'est pas des vilains mots, bien au contraire, hein, on en met partout. Donc, je dirais qu'ils sont bien sur le papier. Après, encore une fois, c'est une affaire de chacun, les droits, hein, c'est-à-dire que si ton voisin décide de pas respecter tes droits, même si lui-même, c'est un enfant, d'ailleurs, bon ben, à cet instant T, il va pas être respecté. Mais il y a une volonté, quand même, en France, que ces droits soient respectés et qu'ils compte et qui soit très important.
Pensez-vous que les gens veulent rajouter des droits l'enfant rajouter des droits de l'enfant en supprimer ou c'est très bien comme ça ?
Bon, après, on peut toujours discuter dans le détail, mais je dirais que globalement, c'est très bien comme c'est déjà aujourd'hui. Maintenant, ce qui est important, c'est comment faire pour qu'ils soient respectés. C'est plus ça la question. Sur le papier, ils sont beaux, hein, ils sont bien. Après, c'est dans le quotidien. Dans le quotidien, comment on fait pour fédérer un petit peu tout le monde, pour que tout le monde soit d'accord pour les respecter et puis tienne l'engagement. C'est plutôt ça la question.
En quelle année les droits de l'enfant ont-ils été créés ?
Alors, j'ai entendu dans votre fiction tout à l'heure que c'est autour des années 50. Alors, l'UNICEF, c'est vrai, ça a été créé en 1947. Après, la Convention internationale des droits de l'enfant, qui a été ratifiée par plus de 180 pays, ça date de 1989. Donc, si on regarde dans le temps, c'est pas si vieux, finalement. C'est assez récent, on va dire, en termes de droits.
Pensez-vous que dans certains pays, les enfants n'ont pas de droits ?
Bien sûr, tous les pays ne voient pas l'enfant tout à fait comme un individu à part entière ou un individu abouti. Voilà, c'est quelque chose, comme je te disais tout à l'heure, hein, d'assez récent, d'envisager l'enfant comme une personne dans son entièreté, même si elle est en pleine évolution. C'est très nouveau comme concept, finalement, dans l'histoire de l'humanité. Donc il y a encore plein de pays où tout ça, ça n'existe pas, ou alors ça existe pour faire bien, mais dans la réalité des faits, on n'est pas beaucoup de moyens pour les appliquer.
Pensez-vous que ces droits sont respectés ?
Alors oui, ça dépend. Hein. D'une manière générale, on va dire que, en tout cas, les institutions qui visent à les faire respecter, eux, sont très impliqués dans la question. Voilà, s'il y a un problème qui est soulevé, ils vont s'y intéresser, ils vont essayer d'y remédier, voire sanctionner. Après, comme on le disait, c'est une affaire de chacun. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte, finalement, que tous les jours, il y a des droits qui sont pas forcément respectés. Que ce soit des adultes par rapport à un enfant ou que ce soit les enfants entre vous.
Quels droits, quelles lois ne sont pas respectées ?
Il y a plein de petites choses. Là, vous parliez sur l'émission d'avant du harcèlement, par exemple. Là, c'est déjà une façon de ne pas respecter les droits de l'autre. Hein, être malveillant, ça ne fait pas partie des droits de l'enfant. Normalement, on doit être bienveillant. D'accord ? Vous parliez de la violence, des choses physiques. Bon, ça, c'est pareil, ça peut arriver que ça ne soit pas respecté. Après, il y a aussi, et là, effectivement, c'est presque plus grave, des adultes qui ne respectent pas ces droits, tout à fait.
Que pouvez-vous nous dire des droits de l'enfant plus tard ?
Plus tard, c'est-à-dire quand il est plus grand ou à l'avenir, qu'est-ce qu'on pourra en faire ?
Est-ce que vous savez s'il y a... Quelle loi y aura en plus pour les enfants plus tard ?
Non, là, je ne sais pas trop ce qui peut être dans les tiroirs, mais je pense que la prévention, c'est un sujet assez important. Parce que là, on a mis sur le papier, comme je disais tout à l'heure, on est plutôt bien. On est à pousser les choses assez profondément. Maintenant, ce qui compte, c'est comment on fait pour que ça fonctionne et que les gens respectent ces droits. Donc là, je crois qu'on est assez axé là-dessus. Tous les organes qui s'occupent des droits de l'enfant, ils sont assez axés là-dessus. D'ailleurs, la preuve, vous avez des opérations de prévention dans vos écoles. Il y a des gens qui viennent. Monsieur Vézillier disait tout à l'heure, il y a les gendarmes qui viennent vous voir aussi pour vous expliquer un petit peu les choses. Voilà, on met des outils à votre disposition. Là, le reportage que vous avez dû faire et les recherches que vous avez dû faire pour cette émission, c'est une façon aussi de vous éveiller à la question. Je pense que tout le travail à venir va être plutôt axé sur comment on fait pour qu'ils soient réellement respectés et sensibiliser les gens au respect de ces droits.
Merci Madame Collet pour avoir répondu à nos questions.
Merci à vous, c'était un plaisir comme d'habitude, comme tout à l'heure, et franchement, je suis super fière de vous, vous êtes fantastique.
Après, j'ai une autre question qui n'était pas dans une liste, c'est même si un enfant, c'est tout le temps un enfant jusqu'à qu'il a 18 ans, différents les âges, par exemple 8 et 16 ans, il y a plus de lois pour ceux de 16 ans que de 8 ans.
Alors, les droits, d'une manière générale, de l'enfant vont être les mêmes. Voilà, un enfant égal mineur, c'est-à-dire moins de 18 ans. Après, ça va plutôt être, si c'est lui qui respecte pas le droit d'un enfant, qui va pas être forcément jugé ou apprivoisé de la même façon pour y remédier. Tu vois, ça va plus être dans la répression, où on va avoir des différences. Par contre, les droits, que tu aies 2 ans ou 17 ans, 3 quarts, ça va être exactement les mêmes.
D'accord.
Bon, bah, merci, Madame Collet.
Merci à vous et bonne continuation.
Merci.
Nous sommes le groupe 6. Merci Abdel, Camille, Arthur, Kélian. Nous sommes Jade, Nathalie, Elsa, Amric, Renaud. Nous allons vous présenter notre quiz. Nous allons d'abord vous expliquer les règles du jeu. Il nous faut un adulte et un enfant dans deux équipes. On pose les 8 questions.
Règles du jeu. Deux manches, deux équipes de deux, quatre questions, choix multiples.
Quatre questions, vrai ou faux. Première manche, choix multiple. On posera quatre questions. Première manche, vrai ou faux.
Est-ce que les enfants ont les mêmes droits dans les autres pays?
Non, faux.
Non, non, faux.
Ça, c'est vraiment faux.
On avance.
Tous les enfants ont-ils le droit d'être libres dans chaque pays?
Non. Faux.
Les enfants ont-ils le droit de manger à leur faim?
Faux.
Oui,
faux.
Non. Bah, si, c'est vrai, mais ils peuvent pas forcément.
Si, oui, ils peuvent.
Ils ont le droit.
Alors, faux. Alors, c'est pourquoi ils
veulent. Choix multiple. Première question. En quelle année a été écrite la Déclaration des droits d'enfant?
1841.
C'est ça?
C'est faux.
Non. Attendez. Choix multiple. Attendez les choix.
Ah. Réponse A. 1942, réponse B. 1950, réponse C. 1959, réponse D. 1960.
Moi, je dirais B. Moi, je dirais la C.
La A.
Vas-y, ouais.
C'est bon.
C'est ça.
Hein.
Oh,
la réponse.
C'était la C. C. 1952.
Non, c'est la C. C'est la C. Le micro, on
avance. Combien d'États ont signé les droits de l'enfant? 190, 180, 196, 195.
196. D. 195.
C'était 195.
Troisième question. À quoi servent les droits de l'enfant? A. À éduquer son enfant. B. À protéger les enfants. C. À distraire les enfants. D. À aider les enfants.
La B.
Les droits de l'enfant s'arrêtent à quel âge? 12 ans, 6 ans, 18 ans, 25 ans.
18 ans.
Égalité.
C'était 18 ans.
Ah, 18 ans. Dit.
Non, on l'a dit là. Oh, mec.
Bon, on est où? Vous voulez les résultats ou pas? Parce que moi, j'ai compté les points. Hein. Vous voulez savoir où on en est?
Ouais. Oui.
Et ben, c'est l'équipe numéro 1 composée de... Donnez-moi vos prénoms.
Thibaut. En fait...
Thibaut et Raphaël qui gagnent d'un point seulement, 5 contre 4 points. Bravo!
Merci de nous avoir répondu.
Voilà, est-ce qu'on avait une conclusion très officielle de cette émission? Sinon, c'est moi qui viens la poser, cette conclusion. C'était donc les élèves de l'école Jules Ferry, la classe de CM2 de Monsieur Pinel, qui vous ont proposé une émission autour des droits de l'enfant. C'était une très très belle émission. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que eux ont eu de stress à l'animer. Non, pardon, de plaisir à la préparer, ou inversement, ou réciproquement. Allez savoir. En tout cas, merci à cette classe des CM2 de Monsieur Pinel de nous avoir délivré une très très belle émission. Cette émission, vous pourrez la retrouver en podcast. Je donne pas l'adresse là, c'est des adresses internet, c'est innotable, mais allez sur le Facebook de la radio, sur en cherchant School Radio Gisors, vous tomberez sur les programmes de notre radio, et puis vous irez voir où est-ce qu'on retrouve les podcasts. Et à partir de demain, normalement, on retrouvera l'intégralité des émissions d'aujourd'hui, et notamment cette belle émission sur les droits de l'enfant. Merci beaucoup en tout cas à la classe de Monsieur Pinel de l'école Jules Ferry de Séry-Fontaine pour cet excellent travail réalisé. Merci à vous.
Merci.